introduise un débat sur l'artiste dans la société. Alors évidemment, vous pensez bien que ça ne va pas se faire en 5 minutes. On va évidemment à peine esquisser quelques idées. Et ce qui nous concerne, nous, dans notre milieu des musiques traditionnelles et des musiques du monde, avec ces réflexions qui ont déjà été bien esquissées et même débattues ce matin entre la création, les questions de recherche et de création. Alors ça peut être étonnant de savoir qu'un prof de fac joue des cornemuses, mais je vous rassure, il y en a d'autres. Notamment à Aix-en-Provence, je connais un prof d'histoire médiévale qui passe des moitiés de nuit à jouer du pibroch écossais dans sa cuisine. À 2h du matin, il marche dans l'an, là, ça je suis témoin. Donc il a une maison isolée, bien sûr, et il a perdu beaucoup d'amis. Ça ne m'étonnera pas. Moi, mon expérience d'un point de vue social, c'est que la musique, et c'est quelque chose que je défendrai toujours jusqu'au bout, c'est d'abord une expérience collective, c'est pas quelque chose justement où on joue tout seul dans sa cuisine à 2h du matin. C'est quelque chose qui se partage, c'est une joie qui porte une force de contestation, une force de revendication politique, je pense, irrévérencieuse, fondamentalement, avec donc juste une quarantaine de pratiques entre les deux points, le départ et l'arrivée. Dans les années 1975, lorsque j'ai découvert ce monde des musiques traditionnelles, je pensais vraiment que la musique était un autre langage, c'est-à-dire qu'elle permettait justement d'exprimer des choses que la littérature ou que le langage parlé n'était pas capable d'exprimer. Donc la musique en même temps était irréductible à un langage parlé, que c'était une autre forme d'expression, la musique en général. Et donc les musiques traditionnelles, dites traditionnelles, bien évidemment, avaient la même puissance, le même pouvoir d'exprimer autre chose justement qu'un langage justement difficile à cadrer avec les mots du quotidien. Donc, lorsqu'il a fallu mettre des mots sur ces pratiques musicales que nous expérimentions, qu'on appelait le folk, tout simplement, en 1975, il a fallu donner du sens et créer du sens, finalement, avec des langages de prêt-à-parler, d'une certaine façon, qui étaient à notre disposition, et sur lesquels qu'on a, à mon avis, plaqué sur des pratiques qui étaient beaucoup plus complexes que les outils de langage dont nous disposions. Donc, on a emprunté des facilités, de mon point de vue, hein, j'en suis responsable comme bien d'autres, des facilités de langage qui ont conduit, finalement, peut-être, et c'est là le débat, à certains enfermements, justement parce que les mots ont une puissance qui oriente le sens, et qui oriente notamment le sens de ces musiques que nous pratiquions. Cette recherche du sens dans les années 1975 et celles qui ont suivi, qu'on a appelé donc musique traditionnelle, encore une fois, à mon avis, par facilité, par une espèce de cliché comme ça, assez rapidement ont été associés à des mots toxiques, comme il y a des produits toxiques. Et pour moi, ces produits toxiques sont les mots authenticité, les mots identité. Et je pense que nous avons joué aux apprentis sorciers d'une certaine façon, en voulant user de ces mots, finalement à l'exclusion de beaucoup d'autres, et en voulant donner un sens littéraire à une pratique qui était assez irréductible en fait, assez piège à penser. Et je pense que nous avons joué aux apprentis sorciers d'une certaine manière, en nous emparant de cette terminologie scientifique, en tout cas qui venait d'un corpus littéraire scientifique, et ce qui correspond avec le recul, je pense, à une soumission sémantique. Cette quête des mots et du sens a donc conduit à certaines instrumentalisations de ces musiques, à laquelle nous nous sommes prêtés, très clairement, par le politique, par le culturel, par le social et par l'État, comme ça a été assez justement évoqué par Daniel Fabre ce matin. Et je pense encore une fois que nous, les musiciens professionnels qui avons pratiqué ces musiques dans les années 70-80, nous avons été en première ligne de cette instrumentalisation. Au début, cette musique, très clairement, était une musique de fête et de convivialité lorsque nous avons commencé à la pratiquer. On appelait ça le folk dans les années 70. Tout le monde, y compris ceux qui aujourd'hui repoussent cette horrible terminologie. Et c'était formidable, en fait. C'était une forme d'innocence. Et cette innocence que nous aurions dû revendiquer nous a paru assez rapidement comme une faiblesse. Cette énergie a été vécue comme une naïveté, en plus renforcée par la mauvaise conscience de la distance sociale, de la distance culturelle et historique, avec une musique que nous reproduisions en la parodiant, en l'imitant, mais nous qui n'étions ni paysans, ni octogénaires, ni occitanophones pour la plupart, et parfois même pas du pays dont nous jouions les mélodies. Finalement, ce qui était une nouveauté, une intuition et une inscription dans un nouveau cadre social et politique, celui de la ville, celui de l'écologie, celui de l'écologie politique, nous n'avons pas su le défendre et le revendiquer véritablement pour ce qu'il était en soi. Il nous fallait les outils du sérieux, les outils de la validation par la science et par l'académisme universitaire et, encore une fois, l'institution de l'État, très clairement. Donc, accepter cette perte d'autonomie, évidemment, accompagnait le robinet à subvention, de manière très clairement. Et j'ai été, encore une fois, le premier à participer de cette démarche, avec d'autres ici. Ce qui ne m'a pas empêché d'approfondir ce parcours universitaire, parce que je pense, comme l'a dit Eric, que les deux manières de faire sont indissociables, la théorie et la pratique. Théoriser une pratique et ne jamais abandonner cette pratique artistique. Cette découverte des outils de l'ethnomusicologie, très clairement, ils se sont produits avec des partenaires importants qu'ont été Bernard Lorta-Jacob, ici présent dans ces années-là, mais aussi d'autres chercheurs moins connus. Et par exemple, je veux citer Jacques Chéronneau, qui travaille au musée des ATP et à l'École des hautes études en sciences sociales, un chercheur assez peu cité, mais qui a joué vraiment un rôle décisif, en fait, dans la déconstruction de nos certitudes et dans le dévoilement de ces certains flous idéologiques par rapport à l'institution. Donc, faisons maintenant cette pratique de musicien professionnel, engagé dans la création et la musique vivante. J'ai approfondi cette réflexion anthropologique en voyant finalement que ce que nous considérions comme une innocence nous avait été donnée, c'est-à-dire que cette innocence de la pratique venait d'un substrat social et culturel, familial, urbain, multiples choses, qui reste d'ailleurs encore, à mon avis, à explorer. Ici même, dans cette salle, c'était donc en 1984, je crois, nous avons créé le spectacle Rétroviseur. Je suis assez ému de repenser à ça. Et avec mon ami Pierre Imbert, nous avions joué cette année-là un spectacle de musique néo-traditionnelle avec des technologies comme des synthétiseurs, des boîtes à rythme, de l'audiovisuel, et ça apparaissait évidemment comme parfaitement iconoclaste à cette époque. L'une des parties du questionnement de nos débats va porter sur la création. Donc cette problématique de l'inventivité de la création, évidemment, elle possède sa propre histoire. L'invention n'est pas la création. C'est un mot qu'on emploie à tort et à travers, évidemment. La création, tout le monde fait de la création. Très clairement, je pense que nous avons plutôt de la rénovation ou de l'invention de musique que de la véritable création ex nihilo. En sciences humaines, vous le savez sans doute, l'invention, c'est lorsqu'on met à jour un objet culturel qui préexiste et qu'on le donne à connaître, comme on invente un trésor. Donc l'inventeur ne produit pas une œuvre ex nihilo, un objet culturel, et bien sûr le champ sémantique du mot créateur est lui beaucoup plus valorisant, ce qui explique son utilisation tous azimuts, mais il est aussi beaucoup plus banalisé. Créateur de mode, créateur de beauté, etc. Donc je pense qu'il faut, de notre famille des musiques du monde, des musiques traditionnelles, plutôt nous ranger du côté des inventeurs ou des rénovateurs que de ce qu'on appellerait des créateurs, véritablement. Peut-être que ça simplifierait beaucoup de débats. Dans le jazz, par exemple, très clairement, le jazz afro-américain, des gens comme Miles Davis ou Charlie Parker se sont toujours considérés comme des improvisateurs faisant invention de musique, en recitant continuellement des sources préexistantes. L'invention, la création ex nihilo, pour eux, n'existait pas. Il s'agissait au contraire de reciter des thèmes, quitte à les jouer de plus en plus vite, quitte à se démarquer du public blanc, par exemple, et des musiciens blancs, par la rapidité, par la virtuosité, etc., ce qui a conduit d'une certaine façon au free jazz. Mais cette invention musicale, encore une fois, citait ses sources, et je pense profondément que dans notre musique, c'est ce qui se passe exactement. Antoine Aignan a défini par exemple cette démarche d'invention en disant que l'inventivité était un produit social en ce qu'il révèle nos modes de présence au monde et aux autres. Notre mode de présence aux autres, ça me semble très important. Jouer pour un public attentif, c'est dialoguer avec ce public. Et Dieu sait que dans ce monde des musiques traditionnelles, tous ces vieux musiciens que nous avions rencontrés dialoguaient avec leur public. Ils ne jamais jouaient. Ils ne jouaient pas véritablement pour eux-mêmes, ni dans une sorte d'intimité, mais vraiment dans le relationnel avec leur partenaire public. Dans le flamenco, c'est le « Ole, vamos », etc., la citation du nom « Vale », que vous connaissez si vous écoutez du flamenco. À la fin du chorus de jazz, c'est les applaudissements qui accompagnent la musique, etc. Donc ce rapport au public me semble fondamental dans l'attitude d'invention et de pratique musicale que nous avons, nous, dans nos musiques traditionnelles. Donc ce débat sur la question du rapport à l'inventivité, quitte à évidemment enfoncer des portes ouvertes, hein, bien sûr, va nous amener à des problèmes de citation de source, donc d'antériorité, et donc de filiation. Et là, évidemment, on retombe sur l'anthropologie, effectivement, qui pose la question de l'identité et des filiations. On a eu un très bon exemple ce matin avec le film de Bernard. Alors, est-ce que ce débat est clos? Bien sûr que non. On pourrait débattre pendant des jours et des jours de cette expérience de relation au public, mais à mon avis, ça définit certaines postures dans justement le choix qu'on va faire dans notre inventivité et dans les lieux, l'espace qu'on va investir pour pratiquer nos musiques. C'est peut-être là, actuellement, moi, où j'en suis en tant qu'artiste, dans cette posture, dans ces choix du lieu où on va jouer principalement. Bon, je vais citer ni Bourdieu ni Barthes pour ne pas faire pédant, mais je peux vous garantir qu'ils ont théorisé ces choses-là. Approche déterministe d'un côté chez Bourdieu, avec le conceptuel, et puis approche plus symbolique chez Barthes avec ce qu'il appelait le perceptuel, et que Baudrillard a amplifié en parlant, lui, de la séduction du sens, c'est-à-dire que finalement, ces choses-là nous viennent dans l'abandon de toute stratégie, et que c'est ce qui la séduction, pour lui, c'est ce qui l'oppose à la déduction, avec le hasard comme maître du jeu, l'indéterminé, que l'on va retrouver chez John Cage. Donc je préfère m'interroger plus humblement sur ma propre pratique, puisque moi j'innove en musiquant depuis toujours à partir de modèles et de cadres déterminés qui sont les mélodies de danse traditionnelles, simples, binaires ou ternaires, 2x4 mesures, 8x4 mesures, et c'est ce cadre-là que j'ai choisi, cette forme de discours mélodique, ou bruitiste, on est bien d'accord, je joue d'accordéonuse, qui cadre donc mon public, la part de mon audience, que je respecte ou que j'épargne parfois en m'arrêtant. Donc, cette notion de tradition-improvisation, elle a été bien explorée par les sciences sociales. J'ai bien aimé une référence que j'ai découverte depuis de façon assez récente, qui est un texte de Bruno Latour, qui est un anthropologue et un sociologue, et lui, il parle de transformateurs fidèles. Nous sommes des transformateurs fidèles. Si la musique est un art de la surprise, de la métaphore et de la séduction, c'est aussi un art de la rupture. Et en innovant, en créant, je me considère comme un transformateur fidèle, selon la définition de Bruno Latour, que je vais vous lire rapidement. Cette transformation progressive n'est pas quelconque, elle est la forme d'une traduction fidèle. On dit autrement la même chose. Autrement dit, elle est la forme d'une tradition. Ce qui est maintenu par cette chaîne de tradition, c'est la réalisation que, quel que soit le nombre des intermédiaires, ils répètent tous fidèlement quelque chose de semblable, même s'ils la transforment, parce qu'il l'a transformé. Une ample communauté se dessine entre tous ces transformateurs fidèles, dont chacun réalise pour lui-même ce que les autres disent et qu'il n'avait pas compris jusque-là. Voilà la petite citation de Bruno Latour. Donc ma position de musicien m'a conduit dans divers contextes de performance musicale, musique écrite, musique lue, musique improvisée, musique imitée, etc., y compris par l'écoute attentive de 78 tours d'enregistrement ancien de Buscatel, passé en vitesse lente grâce à Audacity, etc. Donc tout ça, évidemment, participe de cette construction, de cette alimentation musicale qui me permet, moi, de me considérer comme un transformateur fidèle, parce que je me suis donné la peine d'aller aux sources, de les réécouter, de m'imprégner de cette musique, et j'espère la restituer à ma manière, fidèlement, en la transformant. Donc c'est très difficile de parler de musique et de création. Difficile de parler de musique, c'est déjà Yankelevitch qui disait ça, mais aussi John Lennon qui disait « la musique c'est comme le sexe », c'est très difficile d'en parler. Donc, si la musique est faite pour être jouée, mais pas pour qu'on en parle, comme le disait d'ailleurs Anne Matron qui disait « la musique est faite pour être jouée et pas vraiment pour qu'on en parle », je suis assez d'accord avec cette formule. Donc, cette formule, ce paradoxe du sémioticien de la musique, c'est de traduire en mots ce qui révèle d'une autre expérience de communication. La musique elle-même est-elle un langage? On va passer le débat, évidemment, ça nous emmènerait au bout de la nuit. Je préfère prendre une métaphore maritime. La musique est un océan infini, parsemé d'îles où l'on aborde successivement. Innover, improviser, créer, si l'on veut, c'est un carnet de voyage, une relecture de notes qui sont prises et de souvenirs attachés à cette île et à cette autre. Alors il y a l'île McLaughlin pour les guitaristes, il y a l'île Coltrane pour les saxophonistes, il y a l'île Rameau, il y a l'île Pretorius, il y a l'île Buscatel, il y a l'île Allard, et puis il y a l'île Philippe Glass, etc. Voilà pour cette posture de transformateur fidèle que je revendique. Maintenant un mot sur l'action sociale, j'espère être dans les temps. J'ai dirigé avec mon ami Jean Blanchard un centre de musique traditionnelle en région pendant 10 ans. De 1990 à 2000, c'était le CNTRA, le Centre de musique traditionnelle Rhône-Alpes. Et nous avons essayé de maintenir cet équilibre difficile, parce que dans un centre de musique traditionnelle en région, c'est critiqué de toutes parts. On essayait de maintenir cet équilibre entre théorie et pratique, entre la déconstruction théorique d'un côté et l'engagement innocent, volontaire, dans la musique vivante de l'autre. Donc cet équilibre entre le culturel, le social et le politique. Donc notre posture, notre démarche a été à la fois de privilégier nos sources rurales, c'est-à-dire la musique vivante qui restait, la musique traditionnelle, de tradition orale, qui restait, j'espère qu'il reste encore vivante en Rhône-Alpes, dans le Vercors, en Savoie, en Bresse, en Ardèche, etc. Donc des foyers ruraux, vraiment, de musique populaire. Mais en même temps, et ça c'est une chose que nous avons revendiquée et innovée, nous sommes attachés à mettre en lumière les musiques et les cultures de l'immigration, essentiellement en milieu urbain. Les musiciens arabes, les musiciens gitans, les musiciens de flamenco, etc. Et on a été le premier CNT en France, en fait, à initier ce travail d'accompagnement d'artistes de l'immigration, notamment du Maghreb, par des disques, par des spectacles, par des animations, milieu scolaire, etc. Donc, ce vivre ensemble dont on parle tout le temps, s'est passé par ce dialogue entre des musiques ghettoisées, qu'elles soient occitanes, ardéchoises, plateau du Vercors, ou arabes, en banlieue, Saint-Fond, etc. Avec d'ailleurs un questionnement sur la langue assez similaire. L'occitan, le franco-provençal d'un côté, et puis l'arabe, langue asiatique, le rhum, etc. Et Dieu sait, vous le savez, que l'actualité nous renvoie sans arrêt ces jours-ci, ce questionnement. Regardez ce qui se passe encore ces jours-ci avec ces gamins qu'on empêche de chanter une chanson de John Lennon en arabe, parce que ça se passe en Corse. On marche sur la tête, pourtant c'est la réalité. Donc, s'attacher à ces musiques de prolétaires, quelles qu'elles soient, parce qu'elles étaient tenues, ces musiques, hors du champ culturel, institutionnel. C'est une chose vraiment que je revendique, et à mon avis, qui doit rester fondamentale dans notre posture vis-à-vis des musiques traditionnelles. Oublier nos attachements purement locaux et aller véritablement vers l'altérité et vers l'immigration, avec par exemple plus de 100 000 africains qui frappent à nos portes de l'Europe actuellement. Donc aujourd'hui, tout en poursuivant mon enseignement d'ethnomusicologie à l'Université d'Aix-en-Provence, je considère comme essentiel de retrouver les fondamentaux qui constituaient l'innocence de ce mouvement musical au début, de ce qu'on appelait donc le folk, hein, ce sens de la fête, du vivre ensemble, cette désacralisation de la scène, de l'acte musical, la valorisation de la pratique amateur. Et s'il fallait exprimer un choix, peut-être, c'est ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, je vais me dévoiler, Je me rangerai volontiers aux côtés des analyses de Guy Debord, qui est bien oublié aujourd'hui, et de sa Société du spectacle, et donc dans les rangs d'un situationnisme dont la radicalité est peut-être nécessaire aujourd'hui. Plutôt donc, de mon point de vue, du côté du bal, ce qu'on appelle le baletti chez nous en Provence, ou le bal sauvage, plutôt du côté de la fête de rue ou de village, de la fête de place et la fête de la musique, ça va être évidemment une belle actualité de cette chose-là, plutôt, de mon point de vue, que d'une mise en attente d'un espoir sur l'ouverture des scènes nationales, des spectacles, parfois sinistres, avec lumière tamisée, mise en espace, etc. J'en ai fait l'expérience, de mon point de vue, ne vous inquiétez pas, moi aussi. Donc voilà, c'est, encore une fois, un discours un peu radical, mais peut-être qu'on a besoin de radicalité actuellement, de se ranger de ce côté, du côté des analyses radicales de Debord sur ce qui est devenu la Société du spectacle dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui avec la télévision, l'Internet, etc. J'aimerais terminer donc cette intervention en saluant, à mon avis, des acteurs qui mettent parfaitement en œuvre cette posture depuis des années sur ce territoire et qui me reste pour moi un exemple national. Et je veux saluer le travail à long terme des Braillots au Camounet, travail qui me semble exemplaire de ce point de vue. Merci.
Merci Eric.